Alors, je peux présenter les choses en plusieurs parties. D'abord, parler au niveau, je dirais, le plus basique. Et là, c'est pas spécifiquement un travail, ça ne rend pas spécifiquement une pratique de psychologue. Mais bon, ça peut permettre au sujet supposé ne pas savoir ou ne rien savoir ou peu savoir en matière de cannabis d'avoir quelques conseils utiles, de modifier quelques représentations concernant donc les effets du cannabis. Ensuite, je parlerai donc des différents rapports possibles d'un point de vue psychologique au cannabis chez les adolescents. Qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse à la base de ces différents rapports? Et puis enfin, eh bien, le travail avec les parents d'adolescents qui consomment des pétards. Alors, concernant les effets, bon, les effets sont connus et beaucoup de parents d'ailleurs en viennent, sur la base de l'identification de ces effets, à soupçonner l'existence d'une consommation de cannabis chez leurs rejetons. Bon, c'est ce qu'on appelle les fameux yeux rouges, les yeux éclatés, les yeux explosés, etc. L'augmentation soudaine de l'appétit, la démotivation scolaire, l'absence de volonté, on pourrait dire tout court, et puis l'état d'ébriété, et sans oublier également l'humour qui se trouve exacerbé, surtout lorsqu'on est en groupe. Parce que quand on est tout seul, pas forcément envie de rigoler, hein. Quelquefois, ça peut être bien même l'inverse, y compris chez ceux qui consomment du cannabis. Donc là, on a affaire à toutes sortes de signes. Ceci dit, ce qu'on peut dire aux parents, c'est que ces signes ne sont pas tous spécifiques du cannabis, parents et professionnels. Plus d'une fois, j'ai discuté avec un enseignant qui me disait: Oh là là, celui-là, c'est terrible. Je suis sûr qu'il fume comme un enragé tous les soirs. Faut voir la tronche qui se paye le matin. Vraiment, il est scotché à son bureau. Il a des yeux pas possibles, etc. C'est sûr, il fume régulièrement du cannabis et je suis bien embêté parce que comment faire pour en parler avec lui? Eh bien, rien, ce souci de l'enseignant pour l'élève est tout à fait louable. Cependant, on ne peut pas faire de lecture aussi automatique, de cause à effet. Un élève peut très bien piquer du nez pour toutes sortes d'autres raisons beaucoup plus communes, telles qu'un manque de sommeil, je ne sais pas, lié par exemple à un état dépressif ou bien lié à des heures une fréquentation trop assidue et trop tardive de la télévision, ou bien alors des jeux vidéo trop prolongés, ou bien alors des conflits entre les parents qui perturbent l'adolescent psychologiquement, qui le ronge et qui l'empêche donc de trouver le sommeil, voire, on pourrait dire, des moments de tempête sous le crâne, caractéristiques de l'adolescence, et qui font que, pardon, eh bien, là aussi, même si on compte les moutons, on ne s'endort pas tout de suite. Et ça s'en ressent au matin lorsqu'il s'agit d'aller en classe. Donc, d'autres parents, par contre, ou bien d'autres adultes en position professionnelle, eh bien, on pourrait dire, ont les moyens de, non pas les faire parler, mais au moins de mettre leur rejeton devant le fait accompli. Par exemple, s'ils découvrent tout simplement un morceau de résine de cannabis, ça, beaucoup d'adolescents n'hésitent pas à stocker, enfin stocker, pas au sens où ils en ont des quantités effrayantes, mais disons que les morceaux de cannabis qu'ils achètent, plus souvent c'est la barrette, 5 grammes environ, 100 francs en moyenne, et d'après les usagers, 5 à 10 joints de cannabis avec cela. Donc pour quelqu'un qui fume tous les jours, ça fait une semaine en gros. Eh bien, donc les adolescents conservent facilement sur eux, dans leurs habits, etc., ce type de. Enfin, le corps du délit, si on peut dire. Donc là, c'est clair, difficile ensuite pour l'adolescent de se dérober lorsque ses parents cherchent à avoir une conversation avec lui. Comment dire ça? Alors là, on observe plusieurs attitudes possibles. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est de savoir que, certes, dans certains cas, les parents découvrent du cannabis parce que ils ont fouillé la chambre de l'adolescent. Ils sont allés vraiment activement à la pêche, si on peut dire, sur la base de soupçonner quelque chose. Ou bien alors, ça fait partie, je dirais, ce sont des parents qui ont du mal, d'une façon générale, à privilégier le fait que l'adolescent, enfin, respecter le fait que l'adolescent souhaite avoir un espace qui lui appartienne, et donc sont très effrayés par le fait que comme tous les autres ados, il se démarque d'eux, il leur parle moins, etc. Et par voie de conséquence, se cramponne à lui, soit en lui prenant la tête, comme on dit, soit en menant une investigation tout à fait concrète dans sa chambre, par exemple en essayant de voir, de lire son journal intime, s'il s'agit d'une fille, parce que c'est plus souvent au féminin, les journaux intimes, ou bien donc de chercher... d'autres choses, je sais pas, par exemple trouver des préservatifs qui pourraient laisser à penser qu'il a eu ses premières relations sexuelles, etc. quoi. Et donc, lorsque, donc dans un certain nombre de cas, l'adolescent cache le produit. Mais ce qui est curieux, c'est que des parents, dans d'autres circonstances, eh bien, trouvent assez facilement du produit, voire n'ont qu'à ouvrir la porte de la chambre pour en trouver. Et là, ça permet de poser une autre hypothèse. Est-ce que c'est pas fait ? Est-ce que c'est vraiment laissé là par hasard ? Est-ce que l'adolescent a oublié par hasard de ranger ? Ou est-ce que quelque part, ça ne serait pas un moyen d'attirer l'attention du parent ? Et en fait, lorsque l'on pousse un peu plus loin, eh bien, c'est plutôt la seconde réponse qui est la bonne. Et là, on rejoint, on pourrait dire, toutes sortes de conduites d'exhibition, de démonstratives un peu des adolescents qui sont autant d'appels au dialogue, voire d'appels à l'aide vis-à-vis des parents, tels que eh bien, laisser en évidence une lettre où on exprime que la vie ne vaut rien, qu'on a des idées noires, qu'après tout, la mort, c'est peut-être pas plus mal. Type de confidences qui, d'ailleurs, incidemment, peuvent être glissées à l'occasion d'une dissertation de philosophie et qui, là, pourra attirer l'attention d'un enseignant, qui, s'il fait bien son travail, enfin, s'il a une espèce de plus-value relationnelle, pourra essayer de discuter un petit peu avec l'élève et ensuite de passer le relais au sein de l'établissement vis-à-vis de l'infirmière, de l'AS, puis de l'extérieur si besoin. Donc, quelquefois, l'intervention des parents se trouve facilitée par le fait que le cannabis présent dans sa chambre ou dans ses poches, en fait, constitue un appel à l'aide. Là, voilà un levier qui facilite éminemment les choses. Et ce que ça nous permet de comprendre, c'est que les adolescents, contrairement à ce qu'on peut penser, ne fument pas toujours pour s'amuser ou ne fument pas toujours pour faire une expérience. Alors, je poursuis la partie, je dirais, la plus concrète, la plus basique, concernant les circonstances de découverte du cannabis, etc., de consommation, les effets. Ce qu'il faut savoir en tant que parent, c'est qu'il n'y a rien de plus facile pour un adolescent de se procurer du cannabis. Je veux dire, on en trouve absolument partout. Il ne faut pas se représenter que le vendeur de cannabis, c'est comme le vendeur d'héroïne, etc., le dealer, comme on le voit dans les films ou dans les faits divers, si on lit les procès, les comptes rendus de procès, la personne qui vit dans une cité, qui ne vit que de ça, qui est engagée plus ou moins dans une grande délinquance, qui ne se met pas à table, comme on dit en langage policier, en cas d'interpellation, qui peut-être elle-même toxicomane, qui... effectue des séjours réguliers en prison, non, ça, et qui gagne énormément d'argent, qui roule en BMW, etc., pour épater les copains de la cité, etc. Le vendeur de cannabis, bon, même s'il faut pas, les choses sont pas tranchées de manière abrupte, hein, certains vendeurs de cannabis vendent également de l'héroïne et réciproquement, mais ça n'est pas la règle. Donc, pour ceux, en tout cas, qui vendent du cannabis, le plus souvent, ce sont d'autres adolescents, des adolescents qui n'ont pas de difficultés sociales, d'insertion scolaire, etc., particulières. Le plus souvent, ça peut être un copain de classe, un voisin, un gars avec qui on fait du sport, etc. Ça peut venir vraiment par le biais des rencontres les plus anodines. Il n'y a pas besoin de se rendre dans des endroits sordides qui ressemblent à des coupes-gorges et de côtoyer des individus extrêmement inquiétants. C'est vraiment donc l'abord du produit, tant par la disponibilité que par, on pourrait dire, la façon d'être des personnes qui proposent de le vendre. Tout ça crée, ça se délimite un cadre dominé par la facilité et par la déculpabilisation aussi. Si on n'est pas obligé de se rendre dans un endroit étrange et de côtoyer des individus étranges pour s'en procurer, après tout, c'est normal, c'est quelque chose... Il n'y a pas de mal, quoi. Hein. Ça met la personne en porte-à-faux avec l'esprit des lois en matière d'usage de cannabis dans notre pays. Alors, il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que L'acquisition de cannabis, elle est extrêmement facile. En plus, c'est un produit beaucoup moins cher que d'autres substances. Le revers, et ça, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents qui en avaient fait les frais, c'est que la personne qui vend du cannabis, le plus souvent, c'est quelqu'un qui arrondit ses fins de mois, qui veille elle-même, qui a le souci, d'assurer sa propre consommation. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à en vivre, ça peut être quelqu'un... Qui est issu d'une famille aisée, qui n'a absolument pas de problème d'argent de poche, etc. On ne doit pas avoir de représentation misérabiliste, si vous voulez, des vendeurs de cannabis. Alors, le revers de la médaille, c'est que, comme ce ne sont pas des pros, entre guillemets, pour la plupart dans ce type d'activité, c'est que ils sont plus facilement repérables que les vendeurs d'héroïne par la police, si vous voulez, et par voie de conséquence, plus souvent interpellés. Et autre voie de conséquence, leur amateurisme fait que, pour peu que la maréchaussée mette un peu la pression, en leur disant que s'ils donnent des noms, les charges retenues contre eux pourraient être allégées, donc on les encourage à la délation des gens à qui ils ont vendu, etc., eh bien, ils passent très facilement à table. Et à l'endroit où je travaille, on l'a vu en quelques mois, défiler 40 jeunes, tous dénoncés, entre guillemets, par le même vendeur, ce qui avait donné lieu à un traitement judiciaire de ces affaires-là, où les jeunes n'avaient pas été condamnés, mais invités en guise d'alternative, alternative intelligente d'ailleurs, à se rendre donc dans le centre où je travaille.